On accueille maintenant dans les studios Céline Barré, médiatrice depuis 3 ans en justice restaurative ou réparatrice, c'est une nuance de taille sur laquelle on va revenir. Médiatrice donc pour l'association départementale d'aide aux victimes, Remède. Bonjour Céline.
Bonjour.
Et puis Lorraine qui est une victime, qui a fait une demande de médiation pour des faits qui remontaient à 39 ans et qui a donc participé durant 1 an et demi à cette médiation assurée justement par Céline. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Alors vous avez accepté donc du coup de raconter comment ça s'est passé, cette médiation, et ce que ça a apporté, ce que ça t'a apporté, surtout Lorraine. Mais peut-être ce serait intéressant et utile pour les auditeurs, auditrices, de revenir sur ce que c'est que la justice alors restaurative ou réparatrice. Céline, en quoi ça consiste exactement ?
Alors la justice restaurative, en tout cas c'est le terme qui est employé en France, qui est notamment, c'est le terme dans la loi. C'est Taubira qui, à peu près 10 ans, l'a inscrit dans la loi quand elle était ministre de la Justice. C'est un espace de dialogue entre auteurs et victimes, ou victimes indirectes aussi, les personnes proches des victimes, pour pouvoir dialoguer de manière sécurisée avec une tierce personne pour revenir sur les faits, pour revenir sur les répercussions et les conséquences de ce qui s'est passé, et aussi penser à un lien peut-être à reconstruire ou à réparer.
C'est une démarche qui a à peu près 10 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est une démarche qui a 10 ans, qui est alors il faut se former pour faire de la justice restaurative. En tout cas, il y a l'Institut français de justice restaurative et l'ARCA, qui sont les deux structures qui forment à la justice restaurative. C'est surtout des personnes qui travaillent dans les centres pénitentiaires, les SPIP, la PJJ ou les associations d'aide aux victimes qui sont en premier lieu formés, mais qui ont souvent peu de temps aussi à allouer à la justice restaurative. Et en tout cas, dans la Drôme, c'est l'association Remède, donc qui est l'association départementale d'aide aux victimes du réseau France Victimes, qui mène des médiations. Donc nous, on est une petite équipe de 7-8 personnes, dont la majorité sont des bénévoles formés par l'Institut français de justice restaurative.
Alors peut-être que les auditeurs auditrices ont entendu parler ou vu le film qui est sorti en 2023, une fiction de Jeanne Herry, mais évidemment très documentée, qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages », un film qui à l'époque était sorti à l'Éden, et c'est suite à le visionnage de ce film que Céline, tu t'es dit « ce sera mon prochain métier », c'est ce que tu m'expliquais juste avant l'émission.
C'est ça. Effectivement, quand j'ai vu ce film, je me suis dit c'est un outil génial et je me suis dit que ça allait être mon prochain métier. Et en fait, il y avait des bénévoles de Remède qui étaient là. Donc j'ai appris qu'on pouvait faire la justice restaurative dans la Drôme. Et c'est comme ça que j'ai contacté Remède et que je suis devenue bénévole. Puis après, maintenant, je travaille pour eux. Alors à Remède, on fait surtout des médiations. Il y a différents types de médiations. Il y a les médiations directes, donc entre auteurs et victimes, où en fait on prépare les victimes et les auteurs à se rencontrer avec tout un travail de préparation, de scénarisation. C'est-à-dire on projette les deux personnes parallèlement, donc de manière confidentielle, dans la projection d'une rencontre. Alors c'est quand tu vas la revoir, la personne, qu'est-ce que ça va te faire ? Quelle émotion ça va te créer ? Si elle te dit ça, comment tu vas réagir ? Si elle relativise ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu veux lui dire ? Et au fur et à mesure, on prépare, on scénarise tout, vraiment petit pas à petit pas, donc c'est très long, ça peut prendre au minimum 6 mois, et en général c'est plutôt un an et demi de préparation, parce qu'on est dans 2 temporalités, 2 personnes, voilà, et on les accompagne petit à petit de manière confidentielle, donc c'est parfois aussi un peu frustrant, parce que les 2 personnes ne savent pas ce qui se joue de l'autre côté. Pour l'autre personne, on a vraiment un enjeu de confidentialité, sinon ça biaise. On a une posture où on accompagne exactement de la même manière l'auteur que la victime, avec principe de non-jugement. On n'est pas la justice. Hein. C'est vraiment un processus qui est parallèle à toute procédure judiciaire. Ça n'a pas d'impact sur la remise de peine, ça n'a pas d'impact sur quoi que ce soit dans le jugement. Donc c'est vraiment sur la libre adhésion des 2 personnes. Les personnes peuvent arrêter à tout moment et on peut aussi ne pas aller jusqu'à la rencontre. La plupart du temps, on y va, mais petit à petit. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ne se sentent pas en capacité de rencontrer l'autre. Et donc, il y a d'autres modalités, des échanges de lettres, des échanges de textos, des visios, enfin voilà, d'autres manières. Tout se construit avec les 2 personnes. personne, quoi.
Ça, c'est la médiation directe.
Ouais.
C'est pas celle qui est la plus représentée dans le film dont je parlais, Je verrai toujours au visage. On voit plutôt des médiations indirectes, c'est-à-dire que les victimes rencontrent des auteurs de délits, de crimes, d'agressions ou autres, qui ne sont pas celles qu'elles ont subies directement, mais la même type d'action, c'est ça ?
Ouais, ça s'appelle des rencontres détenues ou condamnées victimes. Donc, effectivement, c'est des groupes de parole avec des victimes, plusieurs auteurs, des médiateurs et des représentants de la communauté. Donc, des personnes qui représentent la société qui est aussi là pour englober à la fois les victimes et les auteurs dans leur démarche. On n'en fait pas encore dans la Drôme, ça existe ailleurs, mais c'est un processus qui est très compliqué à mettre en place parce qu'il faut aussi accompagner individuellement chaque personne pour ensuite envisager des rencontres et être sûr que tout le monde est prêt dans cette démarche-là. Donc il y a ces rencontres-là. Vous avez aussi les rencontres indirectes, donc effectivement des auteurs et des victimes mais qui ne se connaissent pas. Mais ça peut être juste des duos. Enfin, pour pouvoir, par exemple, moi j'ai une personne qui a demandé à rencontrer des victimes d'agressions sexuelles parce que cette personne avait commis cet acte-là et avait souhaité pouvoir dialoguer avec une personne pour comprendre les répercussions. Voilà, c'est ce type de situation.
Alors donc, on va rappeler quand même l'association pour laquelle tu travailles maintenant, qui s'appelle Remaid, R-E-M-A-I-D, donc c'est un acronyme. Je ne sais pas si c'est la peine de le détailler là, mais si jamais vous voulez, c'est autour de l'écoute et de la médiation, on va dire. Donc si vous voulez, auditeurs et auditrices, retrouver cette association, peut-être pourquoi pas devenir bénévole, ça s'appelle R-E-M-A-I-D, donc Remaid, et ça se trouve à Valence. Et il y a une grosse équipe bénévole à créer, donc on est une ville...
Tout à fait, ouais. Ouais, on mène à peu près une trentaine de médiations en ce moment, donc ça fait 60 personnes quand même à accompagner. La particularité de la justice restaurative, tu parlais de la différence entre réparatrice et restaurative, la justice restaurative, elle est conditionnée à une démarche judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut un dépôt de plainte, au moins un dépôt de plainte, pour pouvoir démarrer un processus de justice restaurative. Aussi parce que c'est un dispositif qui est gratuit, mais du coup on ferme la porte à de nombreuses victimes qui veulent pas ou ne peuvent pas porter plainte pour X ou Y raison et qu'elles sont même pas justifiées vis-à-vis de nous. Mais en tout cas il y a un gros enjeu par rapport à ces victimes qui déposent pas plainte. Donc il y a d'autres structures type La Valise qui est basée à Toulouse qui eux parlent de justice réparatrice pour créer un peu aussi une différence entre la justice restaurative liée à un dépôt de plainte et qui peuvent aussi accompagner des victimes hors démarche judiciaire. Bon après donc du coup il y a énormément de gens qui se tournent vers cette association là. Il y a 2 mois et demi d'attente pour pouvoir commencer une mesure, quoi.
Merci Céline. Alors Lorraine, toi tu as fait cette démarche, tu as contacté l'association Remaid pour bénéficier d'une médiation, d'une médiation suite à des faits qui remontent à 39 ans je crois.
Oui, exactement. Oui.
Voilà, oui. Donc on peut le dire, il s'agit d'un homicide.
Oui.
Et toi tu étais une personne très très proche de la personne qui a été tuée.
Oui, c'était ma sœur.
Voilà. Oui. Et suite à ça, les années ont passé et c'est peut-être déjà ça dont tu peux nous parler. C'est qu'est-ce qui t'a conduit à aller vers cette médiation depuis les faits, comment tu as vécu toute cette période-là, de 39 ans finalement?
Alors 39 ans de ça paraît curieux, mais c'est 39 ans d'enfermement en ce qui me concerne, en ce qui concerne notre famille, parce que il y a 39 ans, on a reçu un choc, vraiment un trauma à l'annonce du décès de ma sœur. Il y a eu jugement, etc. Mais on s'est retrouvés sans mots, en fait, M-O-T-S. Alors les mots M-A-U-X, ils étaient nombreux, puisque en l'espace de 4 ans, ma marraine, mon père et ma mère ont pratiquement disparu. Enfin, pratiquement, ma mère a mis plus de temps, mais ils sont morts du fait du choc. Et puis on a continué la vie. Moi, il y a 39 ans, j'ai reçu l'annonce du décès de ma sœur. J'étais enceinte de 9 mois. Du coup, j'avais la vie à l'intérieur. Ça m'a sauvée. J'avais une famille très, très liée, un mari très, très gentil. Il y avait un entourage qui était correct, mais il n'y avait pas de mots. On n'a pas pu parler. Et 39 ans sont passés. Alors, je vous passe les psys, les... les problèmes intestinaux, etc. Et puis moi également, tout d'un coup, ma fille m'a emmené voir un film qui s'appelait « Je verrai toujours vos visages ». Incroyable. Je l'ai vu une première fois, ça m'a fait un choc extrêmement positif, c'est-à-dire que je me suis dit tout d'un coup, mais même dans tout mon corps, je me suis dit « Waouh, une porte peut s'ouvrir ». Je ne savais pas pourquoi, mais une porte peut s'ouvrir. Et puis je l'ai vu une deuxième fois au Luxe à Valence. Et là, il y avait Remède qui expliquait. Et là, l'aventure a commencé. C'est-à-dire, j'ai osé, à la fin du film, quand il n'y avait plus personne, j'ai osé m'approcher d'Edouard en question. Je lui ai demandé si même après 39 ans, on pouvait faire quelque chose parce que j'avais vraiment besoin.
Edouard qui était donc coordinateur de l'association
à cette époque-là. Tout à fait, oui. Et il m'a dit oui, bien sûr. Il m'a donné la carte de visite. Là, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis dit, oula, ça va être dur. Et j'ai mis du temps avant de téléphoner à Remède. À Edouard, précisément. Je crois que j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai tourné autour de mon téléphone et puis ouais, j'y suis arrivée. Et là, les mots ont commencé à avoir de la valeur. Il y a eu de la bienveillance, il y a eu du temps. La notion du temps n'est pas la même, en fait.
C'est à ce moment-là, du coup, que tu as travaillé avec Céline, tu as rencontré Céline.
Alors, au début, c'était que Edouard, et puis après, Céline est arrivée, et puis après... Edouard est parti et Céline est venue. Y a beaucoup d'espoir quand on contacte la justice. Alors moi, je dis réparatrice parce que restauratrice, ça me dérangeait un petit peu. Mais réparatrice, oui, il y a une réparation.
Et pourquoi ça te dérangeait?
Parce que restaurer quelque chose, moi j'étais restauratrice de patrimoine écrit, et restaurer quelque chose, c'est se remettre dans la même situation, essayer d'être à l'identique, au pastiche. J'avais pas du tout envie de revenir en arrière, j'avais envie de voir de l'avant. Parce que depuis le début, les mots ayant été muselés complètement après le procès, j'avais rien entendu, j'avais vu la personne qui avait acté le décès de ma sœur, mais il y avait quelque chose qui manquait, vraiment il y avait un manque. Il n'y avait pas de communication. Alors, peut-être que tout de suite, je n'aurais pas pu, mais le premier mot, la première phrase qui m'est venue quand j'ai appris que ma sœur avait été tuée, c'est, on me dit, quelqu'un a tué ta sœur. D'abord, c'est extrêmement violent, cette annonce-là. Et j'ai tout de suite répondu, je m'en souviens très bien, j'ai tout de suite répondu, mais où est la personne? Où est-ce qu'elle est? Évidemment, je ne pouvais pas communiquer avec elle. Et j'avais cette envie de dire, mais il faut que je la voie. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Pourquoi? La justice ne m'a pas apporté. Les 3 jours de procès ne m'ont pas apporté de réponse.
On peut préciser qu'à l'époque, évidemment, une démarche comme proposée aujourd'hui par l'association Remède n'existait absolument pas.
Ça n'existait pas et c'est dramatique que ça n'existe pas, en fait. Parce qu'on a besoin, les deux familles, les deux, que ce soit les deux familles ont besoin de se lier dans la détresse, dans la douleur, dans ce trauma. Il y a besoin de paroles. Moi, j'en suis convaincue. Et Remède apporte ça. La justice réparatrice apporte la parole, déclenche la parole. Elle est gelée. Elle est complètement congelée, la parole.
Tu dis les deux familles parce qu'il y a un trauma aussi dans la famille de l'agresseur, en l'occurrence, qui est
Mais l'agresseur, la famille, oui, certainement, oui. Et l'agresseur aussi est choqué. On a un trauma des deux côtés. Moi, je pars du principe que l'homme est bon par nature. Alors, Rousseau l'a dit aussi, mais sous une autre forme. Moi, je pense que la part intacte de l'humain, elle existe. Un nouveau-né qui arrive, il n'est pas là en train d'arracher le téton de sa mère pour lui dire « dis donc, t'as 5 minutes de retard ». Il est ouvert. Et je crois que cette partie-là, c'est la part intacte. Et tout individu, quel qu'il soit, alors c'est dur, hein, si on attaque un de mes enfants, ce qui a déjà eu lieu, il faut respirer avant de dire « ok, je veux rencontrer cette personne ». Mais c'est indispensable, je pense.
Et pour revenir sur cette médiation et sur les faits, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu faire à l'époque?
Alors,
pourquoi avoir attendu 39 ans? Qu'est-ce qui a déclenché? Il y a le film qui a déclenché finalement.
Le film a déclenché, je ne savais pas que ça pouvait exister, je cherchais comment. J'avais demandé à l'avocat de la partie opposée qu'est-ce que je pouvais faire pour contacter la personne. Et on m'avait répondu que c'était interdit.
D'accord.
Interdit. Bon. Mais vraiment, c'est une porte blindée, hein, après l'acte. C'est une porte blindée. C'est pas bon. C'est pas bon psychologiquement pour tout le monde.
Et alors concrètement, comment ça s'est passé? Quelles sont les étapes d'une médiation comme celle-ci? Céline, peut-être, tu veux rebondir sur ce qu'on a entendu du témoignage de Lorraine?
Oui, bah les étapes, en tout cas, c'est donc un temps aussi où on explique à la personne qui fait la démarche de justice restaurative parce que, voilà, les différentes étapes, ce que ça va impliquer, l'enjeu de la temporalité, parce que c'est vraiment sur un temps long. Expliquer à la personne que l'autre en face peut aussi dire non, que ce soit pour une rencontre ou pour rentrer dans la mesure, et qu'il va falloir aussi se préparer à ça. Et après, il y a tout un temps de préparation, d'écrire la demande que nous, on va aller porter en tant que médiateur, médiatrice, enfin, ou animateur, animatrice en justice restaurative, qu'on va aller porter à l'autre personne. Et l'idée, c'est que c'est vraiment une demande écrite. Pour que nous, on ne déforme pas, on va pas arriver en disant « Bon, alors, un tel a dit que ça, c'est... » En fait, nous, on reformule pas, on suggère rien. C'est vraiment un espace. Alors, parfois, ça crée de l'incompréhension de « Mais aidez-nous, on y va ensemble. » Et en fait, nous, on a vraiment une posture de « C'est votre chemin. » Et on n'a pas à influencer s'il faut aller à droite ou à gauche. Quoi.
Donc, à la fin, chaque entretien mené avec la personne, que ce soit... la victime ou l'auteur de l'acte, finit par un écrit.
Alors, pas à chaque fois, mais en tout cas, la personne qui fait une demande de justice restaurative, il faut qu'elle l'écrive. Et nous, on va aller porter cette demande à l'autre personne. Et d'accord. Là, dans la situation de Lorraine, on a mis du temps à écrire cette lettre-là. Et une fois que Lorraine était prête, était OK avec les mots, nous a remis ces mots. Et nous, moi, en l'occurrence, j'ai pris contact avec l'autre personne. Je lui ai envoyé un courrier d'abord pour la prévenir que j'allais l'appeler, parce que aussi ça crée une onde de choc, hein, aussi pour l'autre personne. Oui. Parce que là, c'était 39 ans aussi pour l'autre personne qui n'en avait pas reparlé, qui avait eu un processus aussi de prison, enfin voilà, donc de honte, de culpabilité.
Et qui donc, était évidemment sorti de prison depuis longtemps.
Oui, qui était sorti
de
prison.
Qui menait une vie sans doute depuis.
Oui, et donc une personne l'appelle et lui dit « Bonjour, justice restaurative, proposition de médiation avec la sœur de la personne. » voilà. Et donc ça a été très difficile aussi pour l'autre personne d'ouvrir cette porte. Ça a été un long processus. Moi, je parle d'apprivoisement, enfin vraiment, parce que il faut. L'idée, c'est pas d'aller convaincre l'autre de rentrer dans ce processus-là, mais de laisser cette porte ouverte. Et quand la personne elle est prête, et ben elle rentre petit à petit. Et ça a marché en
tout
cas. Ça a marché.
Alors ça a marché, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, Lorraine?
Alors c'est pas facile à exprimer avec des mots, mais ça a marché. Le lien a pu se faire. Alors, je n'ai pas pu rencontrer la personne parce que, et je comprends, c'est très très dur pour elle, mais les mots ont été partagés. Moi, j'ai demandé à poser des questions. L'autorisation de son côté a été très belle. C'est une autorisation. Alors, je ne vais pas dire pleine de tendresse, mais on a senti réciproquement quelque chose qui s'est tissé entre nous. Je mets de côté l'amour que j'ai pour ma sœur, qui ne sera jamais abîmée. C'est un autre plan. On arrive là dans un autre plan, une autre sphère de communication. C'est dans le désir d'aller vers l'autre. Je pense que nos mots partagés nous ont permis de nous rencontrer, même si physiquement ça n'a pas pu se faire pour l'instant, peut-être qu'un jour. Rien n'est coupé, rien n'est arrêté. C'est pas facile à expliquer, mais il y a eu une sorte de fluide. Ah bon, il y a des larmes, il y a des angoisses, parce que moi-même j'ai refait des cauchemars, mais c'est pas du même ordre qu'avant. C'est un partage qui se fait en fait. Ah, vraiment.
Et vous avez le sentiment, tu as le sentiment, Lorraine, que c'était quelque chose qui, donc, toi, t'as fait avancer?
Oui, alors ça m'a fait avancer parce que c'était un peu sclérosé. L'histoire était sclérosée dans notre famille. Mes quatre enfants, même les petits-enfants qui n'osaient pas poser des questions. Et là, maintenant, je peux leur répondre clairement. leur raconter, leur parler de, d'une personne qui comme tout le monde, on peut tous péter un câble à un moment donné. Bon, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, mais les circonstances font que ça arrive, ça peut arriver pour chacun. Donc c'est, j'apprends là, mes petits-enfants, le fait que ben, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler, il faut partager. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne.
Céline ?
Ouais, et ce qui s'est passé dans votre démarche à vous, c'est que vous vous êtes échangé des lettres pendant plusieurs mois. Enfin, donc, moi, j'avais ce rôle avec Edouard quand il était encore là, de porter la lettre, les questions oui. que toi, tu avais posé par écrit. Donc nous, voilà, on allait porter la voix de Lorraine et les questions de Lorraine à l'autre personne. C'était des questions très directes, hein, où nous, on avait aussi un peu d'appréhension pour la sécurité de l'autre personne, de savoir est-ce qu'on allait recréer du trauma aussi chez elle. Mmh. Et vu que nous, notre posture, c'est d'accompagner, enfin de sécuriser les deux personnes, il y avait quand même un enjeu. Et en fait, ça a permis aussi pour cette personne de libérer sa propre parole. Et là, c'était expliquer ce qui s'était passé, l'acte, la situation, mais pas face à un juge, pas face à une cour, face à la sœur de la victime. Et voilà, elle exprimait que bah, ça faisait 39 ans qu'elle n'en avait pas parlé, quoi. Et que c'était la première fois de sa vie qu'elle pouvait donner son point de vue sur ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle estimait aussi avoir une situation injuste. Elle n'a jamais excusé son acte, elle n'a jamais justifié son acte, mais en tout cas, elle a pu enfin exprimer le contexte dans lequel ça s'est passé. Et je pense que ça, pour les auteurs, parce qu'on voilà, il y a toute une un avis où les auteurs, faut qu'ils ferment leur gueule. Mais en fait, non, les auteurs, faut aussi qu'ils parlent. Oui. Parce que ça permet aux victimes ou aux proches des victimes de comprendre ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on va les pardonner. Il y a très peu de réflexion autour du pardon dans la justice restaurative. On vient s'expliquer. Et l'intermédiaire, ce n'est pas la justice, une cour d'assises, un tribunal, des juges. C'est les deux personnes qui sont liées par la même histoire et qui ont besoin parfois de se repositionner, notamment pour les violences sexuelles, les victimes ont besoin aussi de se repositionner par rapport à leurs auteurs, mais voilà, d'avoir un espace de dialogue, et il y en a tellement peu, les victimes, quand elles sortent de procès, ce que tu disais, enfin, il y a tellement une frustration, une incompréhension, enfin, c'est technique, et puis il y a peu de place pour les victimes, et là, cet endroit-là, bah, c'est un espace où la victime peut s'exprimer, l'auteur peut entendre, l'auteur peut aussi pouvoir s'exprimer s'il a des choses à dire, et en général, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et la victime est souvent prête aussi à entendre ce qui se passe. Enfin, voilà.
Donc, prête, oui. Bah, grâce à ce processus que vous mettez en place, ouais, aussi.
Ouais, ouais. Oui, parce que pendant des années, il y a des images. Et ces images-là, souvent, elles sont transformées, elles sont créées, elles sont des non-dits qui se sont transformés en images d'horreur. Et celles-ci, j'en voulais plus, je voulais les vraies. D'où certaines questions un peu difficiles à entendre, mais elle m'avait autorisé à dire pose la question, pose toutes les questions que tu veux. Et déjà là, il y a presque de la tendresse qui s'installe dans la relation humaine. Voilà, il y a un lien.
Bah, merci beaucoup, Lorraine et Céline, d'être venues témoigner de cette médiation en justice restaurative et on peut dire réparatrice, en tout cas dans ton cas.
Oui.
Et ben voilà, donc si vous voulez vous rapprocher de l'association Remaid, REMAID, c'est possible, ici même à Cré et à Valence.